C'est interdit de fumer ici.
Ah, ici aussi. Ils te vendent des clopes, tu peux pas les fumer, quoi.
C'est un monde qui bat en couille.
Cannabis Circus.
Tous les jours, on va être là. Et la drogue, on va l'éradiquer. Vous le vouliez ou pas? Alors vous, les jeunes, vous avez fait passer le message. C'est vous. Vous, consommateurs.
C'est shit que ça sent.
Cannabis Circus.
Derrière chaque joint, il y a un lien avec une activité mafieuse ou terroriste. Et il faut que chacun en ait conscience.
Cannabis Circus.
Radio Canu.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Et ben c'est l'émission du cirque, hein, comme tous les lundis soirs.
Ouais, bonsoir. Oui, effectivement, l'émission du cirque, le Cirque Lyon, le collectif d'information et de recherche cannabique lyonnais, qui officie à cette antenne dans ce créneau horaire depuis maintenant bientôt 23 ans. Bientôt. Enfin, 22 et demi déjà. Donc le cirque
et le cannabis c'est toujours pas légalisé en France.
Non plus, mais oui, bah oui, forcément, vu qu'on est là. Après, même si c'est légalisé, ça veut pas dire qu'on disparaîtra non plus, parce que je pense que s'il légalise, ce qui est quand même peu probable pour le moment, mais il risque de le faire n'importe comment. Ça, c'est malheureusement un classique. Voilà. Donc le cirque collectif d'information de recherche cannabique que vous pouvez contacter par téléphone au 06 11 53 10 07. Par mail cirque-lyon@no-log.org. Vous pouvez visiter notre site internet également www.cirque-lyon.fr. Également nous envoyer un petit courrier par voie postale, ça fonctionne toujours. Voilà, Cirque Lyon, BP 93 43 69 605 Villeurbanne Cedex. Voilà un peu. Et puis sur Facebook aussi, notre page Facebook, Cirque Lyon et la Fédé des Cirques également. Voilà.
Voilà, donc au sommaire ce soir, et ben, on va vous parler un petit peu de, avec Libération, d'une grande enquête qui se fait chaque année, qui s'appelle la Global Drug Survey. C'est une grande enquête anglaise, donc c'est en anglais, c'est assez chiant à répondre, il faut un certain temps. Voilà, mais c'est intéressant, c'est pour voir un petit peu les usages des produits stupéfiants dans le monde. Voilà, donc c'est intéressant, on va revenir un petit peu là-dessus. Après, on ira voir ce qui se passe aussi en France au niveau de l'automobile et des contrôles au bord des routes. On reparlera de Monsieur Atlaoui, condamné à mort
en Indonésie
depuis 10 ans. Et puis on ira sur des articles un petit peu plus de fond sur ce qui se passe dans le monde avec un grand article du Monde Diplomatique sur l'Uruguay.
Un article qui est pas tout neuf, hein, mais je crois qu'il nous avait échappé l'année dernière. Du coup, il a circulé sur les réseaux sociaux cannabinophiles ces dernières semaines et du coup, je l'ai mis dans la revue de presse de ce soir.
Voilà, et puis ce débat rebondit aussi en Suisse, où il va y avoir une conférence le 3 décembre, donc très bientôt à Neuchâtel, dans une université, donc le sujet prend de la hauteur. On reparlera aussi de ce qui va se passer à New York en avril 2016. Est-ce que ça sera la chance de changer les choses? On ira aussi au Québec, où un juge dénonce les lois désuètes et ridicules sur le cannabis. Voilà, et enfin, une toute petite nouvelle sur la presse canadienne encore, où les vaporisateurs vont être autorisés pour le cannabis médical, ce qui est le moindre des choses, puisque ça permet d'absorber le cannabis sans en avoir les effets négatifs de la cigarette et de le fait de le brûler.
Ouais.
Voilà un petit peu pour le sommaire de ce soir. Allez, on va partir un tout petit peu en musique et puis on revient pour vous décliner tout ça.
I'm gone just no man. Full up in a melange with boom with a choke show. Pass the key, now I no Pepsi.
nothing and a coke. No. A boy have season weed, I just be temper in bravo. Yeah. And when it come to can, me can't make no mistake. I misdeed me mean, but you take it for your joke. Yeah. Maybe lit in a room and blow the smoke on the pole. Yeah. And from your sniff coke, you hang yourself with a roll. Yeah. A weed we are promoting most.
Smoke the weed, the weed, the weed. Till what? Till my eyes are bleed, I bleed, I bleed.
Only
just pass the trees, the trees, the trees.
My friend Rambler,
give me a whistler, please, please, please.
Yo, yo, yo. From you no share weed with no fussy where you about. I have your own a spliff, roll up your hand now. I'm Logan just smoking at the air cause you no know, yo. Weed we a reap, we a plant, we a grow. It make your brain click, coke make your brain slow. And when you burn the herb it's like a heaven you walk out. A Solomon grave had that a fussy worth you know. Rizzler sell off an herbalist them there you know. So burn your weed slow.
Smoke the weed, the weed, the weed. I bleed, I bleed, I bleed.
Yo, Pearl,
just pass the trees, the trees, the trees.
Marshall,
give me a whistle, please, please, please.
Where are you in here?
That one your name, Ganja Smoke. No. Full up in a me lungs with boom, we till me a choke. Pass the key, key, now I no Pepsi, now no coke. A boy have season weed, that does me temper him provoke. And when it come to can, they can't make no mistake. A mistake me mean, but you take it as a joke. Build it in a room and blow the smoke on the boat. And from your sniff coke, you hang yourself with a rope. Weed we a promote, no.
Smoke the weed, the weed, the weed. I bleed, I bleed, I bleed.
Awful.
Me want you pass the trees, the trees, the trees.
Baby,
give me your wrist, love, please.
Et voilà, donc on vient de s'écouter Ward 21, Ganja Smoke.
Toi, tu lui as coupé le sifflet rapidos, là.
C'est pas moi.
C'est lui, d'accord. Bien.
Eh bien, tant qu'on part cette GMD, GDS.
Et tu dis
cette Global Drug Survey.
Ah, okay.
Avec cet article de Michel Henry qui vient de Libération qui s'appelle La brimade des stupes.
Oui. Article excellent, encore une fois. Enfin, j'ai trouvé bon. Michel Henry, hein, qui depuis plusieurs années écrit des articles dans Libération sur les drogues, le cannabis aussi. Il n'a pas vraiment d'équivalent dans la presse française. Ce monsieur Michel Henry, il y en avait d'autres hein, il y a quelques années qu'on voit plus trop, on sait plus trop. Mais en tout cas, lui, il est là et encore une fois, dans cet article, comme dans beaucoup d'autres, sans l'air de rien, il remet un peu le couvert sur ce qui se passe en France et les échecs des politiques publiques en matière de gestion de l'usage de drogue ou de répression, devrais-je dire plutôt. Et là, dans cet article consacré justement à la troisième année de la Global Drug Survey, alors qui n'est pas qu'une étude anglaise, mais c'est international. Hein. Encore une fois,
102 000 personnes dans le monde ont répondu, dont presque 9 000 Français, 8 696 exactement. Donc c'était le 23 novembre. Donc il y a une semaine, donc ça a dû augmenter un petit peu depuis. Donc n'hésitez pas, si vous allez sur Libération, vous avez le lien.
Allez-y, faites l'étude, parce que c'est pas a priori, c'est en fait quasiment la seule étude qui propose des résultats que je qualifierais quand même d'assez sérieux, quoi. Visiblement. Enfin, objectivement même, parce que...
C'est vraiment une étude chez les consommateurs. Alors bon, le seul regret, c'est que ça soit qu'en anglais. Hein.
Alors oui, il faut être anglophone. C'est sûr.
Ouais, parce qu'il y a quelques mots en plus qui sont assez spécifiques.
Ouais, alors c'est pour ça que vous pouvez aussi faire cette étude, répondre au questionnaire en fait, éventuellement aider d'une personne avec vous qui parlerait l'anglais.
Voilà, tout à fait.
Donc, alors, on va se mettre un peu dans l'article. Hein. Bon, on va pas revenir sur le début, hein, sur ce que tu disais, sur le fait que 102 000 personnes auraient participé. Enfin, moi aussi, quand même, les questions. Alors, les questions, ça commence un peu comme ça. Alors, c'est anonyme, hein, faut préciser quand même. Hein.
Ouais, bien qu'à la fin, alors, ils posent des questions un petit peu bizarres sur les dates de naissance, sur l'année de naissance, sur l'initiale du nom de famille. Voilà, ouais, je trouve que c'était un petit peu poussé. En plus, ils demandent quand même, ouais, ils posent quand même des questions très, 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 très précises.
Oui, enfin, ils te demandent pas ton nom complet, ton adresse, ton code postal. Non
voilà.
Plus.
Mais voilà. Donc moi, j'ai juste répondu à peu près ma date. Et
d'accord. Mais en fait, c'est la raison pour laquelle ils sont demandés ces choses-là, c'est pour que la personne qui y réponde, y réponde réellement et pas comme ça l'air de rien, quoi. Donc il faut qu'il y ait un minimum d'engagement du répondant. Donc voilà, ça nécessite un petit protocole. Ou un petit rituel, je sais pas, comme vous voulez, bon, pour que les résultats puissent être extrapolés au mieux, en fait.
Voilà. Tout à fait.
Je pense que c'est les seules raisons. Mais bon, en tout cas, les questions un peu de départ, c'est ça, c'est quelle drogue prenez-vous, à quelle fréquence, à quel prix, que faites-vous quand ça se passe mal, ou l'achetez-vous, voilà. Donc un peu le genre de questions au départ. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres questions en plus. Hein. Je pense que c'est pas les seules questions qui sont posées.
Ah, oui, ça prend 20 minutes quasiment pour répondre.
Ah oui, encore. T'as fait vite parce que moi je pensais que c'était plutôt une demi-heure, trois quarts d'heure.
Ouais, peut-être une demi-heure.
Ouais, minutes, donc une voilà, demi-heure, c'est pas une petite étude à deux balles comme ça. C'est un truc qui se veut quand même sérieux. La personne qui coordonne ça est un psychiatre londonien qui s'appelle Adam Winstock. Et qui, je dirais, voilà, tout simplement compris que pour connaître tout ça, il fallait d'abord voir ce qu'en pensent les utilisateurs et comment ils utilisent. Adam Winstock explique qu'en fait, voilà, tout simplement, il faut donner la parole à ceux qui connaissent les drogues le mieux, c'est-à-dire les consommateurs. Alors, c'est très intéressant ce qu'il dit après. En fait, les politiques de prévention, selon M. Winstock, s'intéressent surtout à une minorité d'usagers qui ont développé une dépendance, mais tout ça en ignorant, en fait, ceux qui aiment boire et prendre des drogues pour le plaisir. Or, la plupart de ces consommateurs, nous dit encore M. Winstock, ne subissent pas de conséquences graves de leur usage. Il réduirait mieux les risques si les messages officiels ne les enjoignaient pas à l'abstinence, laquelle n'a guère de sens, sauf pour le tabac. Ne pas en fumer est un excellent conseil de santé, dit-il, car le risque d'addiction est plus grand que pour la majorité des drogues, et un usage même faible accroît les risques de maladies du poumon et de cancer. Mais, rajoute-t-il, et je trouve que cette phrase elle est géniale, mais pour la plupart des autres drogues, le concept de tolérance zéro a une efficacité zéro. Voilà, qui est clair.
Mais il rajoute derrière, prendre des drogues, c'est prendre des risques. Ce qui est exact.
Et oui, absolument.
Donc, il convient donc de respecter des règles. Voilà, comme pour conduire une voiture, on peut appliquer certaines règles pour rester en sécurité. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'il voit les choses. Donc, il faut faire attention sur la façon dont on consomme.
Oui, alors il faut faire attention et il a édicté une espèce de guide des bonnes pratiques de la conduite, un code de bonne conduite, qu'il a appelé le Highway Code. Donc Highway, ça veut dire autoroute, mais ça veut aussi dire être perché, quoi, être un peu stone. Donc voilà un peu comment il a expliqué ça. Alors il y a plein de conseils et d'autres conseils sur tout un tas de produits en fait, en ce qui concerne le cannabis, l'alcool, le LSD, la kétamine et tout un tas d'autres substances, hein, je pense l'héroïne aussi, la cocaïne. Alors il a également, avec cette étude, mis en place un certain nombre de services comme pour savoir si l'alcool nous rend insupportable. C'est le one-too-many.co, c'est-à-dire le one-too-many, un coup de trop. Aussi pour mesurer sa consommation de drogue, drugsmeter.com, et d'alcool, drinksmeter.com. Donc mesurer votre boisson et l'usage de vos substances. Voilà. Cette étude permet aussi d'édicter des règles de précaution pour les usagers de cannabis basées sur les réponses de 40 000 d'entre eux. Il y a un site là-dessus qui s'appelle www.saferuselimits.co. Alors, c'est qu'en anglais, mais Michel Henry a eu la bonne idée de souligner que quand même pour des conseils en français, le site officiel dépend du ministère de la Santé, drogue-info-service.fr, et il paraît que c'est très bien fait.
Il faudra que j'aille vérifier quand même.
Voilà. Alors j'ai pas compris quand il dit ça si Drogue Info Service c'est allié. Enfin, si quelque part le Drogue Info Service c'est pas un peu allié avec la Global Drug Survey. Parce que là, quand on lit ça, moi j'ai eu l'impression que c'est ça qu'il voulait dire. Que les autorités françaises s'étaient un peu mis dedans aussi quand même pour communiquer ou ne serait-ce que pour apporter une éventuelle aide aux usagers de produits qui voudraient des conseils et qui n'en trouveraient qu'en anglais.
Je pense que Drogue Info Service doit être assez bien fait pour les drogues légales.
Ouais.
C'est peut-être plutôt comme ça que je l'interpréterais, mais bon, il faut qu'on aille voir. On vous dira ça, parce que notre gouvernement n'est quand même pas un modèle de d'intelligence.
Bah peut-être, mais en tout cas, on ne la voit pas. Alors, les thèmes de la Global Drug Survey pour 2016, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ?
Sur ce qui se passe, ils veulent voir un peu l'évolution des prix, de la pureté, surtout pour des produits comme la cocaïne ou la MDMA. Voilà, l'autre objectif de l'année, détecter les nouvelles substances sur le marché. Alors là-dessus, j'étais aussi impressionné par le nombre de drogues qui sont citées. Il y a au moins une centaine de molécules différentes.
C'est ça qui est formidable, en fait. On a voulu interdire la drogue, et en fait, en interdisant, on en a créé des milliers d'autres, quoi. C'est bien.
Ce qu'on peut dire, c'était l'édition 2015. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient vu ? C'était une consommation préoccupante d'alcool en France, ça on le savait. Le retour en grâce de l'ecstasy. La traite toujours fort pour la cocaïne, malgré sa très mauvaise qualité. Le risque des médicaments sur ordonnance. Et la vente de plus en plus répandue sur Internet. Ainsi que l'essor des NPS, les nouveaux produits de synthèse.
Dont le cannabis de synthèse.
Voilà.
Produit assez dangereux, dont on a vu... dans un article il n'y a pas si longtemps, les dégâts causés, quoi, provoqués.
Voilà, donc juste pour revenir sur 95, donc des questions sur pourquoi tant d'alcool, voilà, parce que donc c'est pour être relax qu'il rapporte qu'il utilise l'alcool. Un tiers des gens disent qu'ils sont finis plus bourrés qu'ils ne le désirent, par exemple. 17,2% des gens qui ont un problème avec l'alcool, c'est des hommes en général. Voilà. Donc ça fait quand même un cinquième, voire un peu moins qu'un cinquième. Un peu moins du côté des femmes. Beaucoup de gens finissent en beuverie. Après, le retour de l'ecstasy, comme on l'a dit, et l'ecstasy, donc la MDMA, touche au-delà de la scène rêve et dance, et sa qualité semble en hausse, et voilà, donc a priori ça continue. La cocaïne reste populaire comme drogue stimulante pour ceux qui ont de l'argent. Voilà, son prix varie de 40 euros le gramme en Europe à 400 euros en Australie. Donc a priori une amélioration par rapport aux années d'avant. Une parenthèse sur le protoxyde d'azote, vous savez, le gaz hilarant, qui est pas si drôle que ça, donc il faut quand même faire attention. Voilà, il est apprécié pour ses effets euphorisants, anesthésiques et analgésiques. Voilà, de plus en plus populaire chez les jeunes gens usagers de drogue. 16,5% des répondants l'ont utilisé. Hein. Donc c'est des répondants, c'est là que c'est très particulier. Donc 85% l'ont inhalé à partir d'un ballon, 2% à partir d'un sac plastique, donc très dangereux. D'autres à partir d'une crème chantilly, les bombes de crème chantilly, donc très risqué là aussi. Avec le sac, il y a risque d'asphyxie. Avec la bombe, on risque de se brûler. brûlure de froid, hein, mais voilà les effets hallucinations, confusion, nausées. Il y a quand même 4,5% de ceux qui l'ont utilisé, hein, qui ont perdu connaissance. Voilà, et 3% ont des engourdissements qui ont persisté un moment. Donc voilà, un produit pas si bon que ça. Les risques des médocs, donc c'est surtout aux États-Unis, mais aussi en France, hein, beaucoup de codéine par exemple et d'opiacés. Avec 10% des gens qui en font un usage détourné. De nouveau, le à côté du cannabis synthétique, donc du cannabis naturel, il parle du cannabis synthétique en disant qu'il y a quand même des problèmes et que le cannabis synthétique représente un grand risque de dépendance et de syndrome de manque supérieur au cannabis naturel. Donc voilà, les symptômes de manque seraient donc quasiment les mêmes que pour le cannabis naturel: transpiration, palpitations, tremblements. Voilà.
Ouais.
Bien que les syndromes du manque sur le cannabis. Okay.
Tu peux juste nous dire d'où tu tires toutes ces infos, parce que moi j'ai pas les. Alors, j'ai pas ça sous les yeux.
C'est un article aussi par Michel Henry.
D'accord. Okay.
Qui s'appelle Cam de si de rien n'était.
Voilà, d'accord.
Qui reprend, donc c'était un article du 7 juin 2015.
Ah, ok.
Qui reprenait un petit peu les résultats de l'enquête de l'année dernière.
Je comprenais pas où c'était dans mes papiers tout ce que tu disais, mais d'accord, ok.
Voilà, la remarque de plus, on achète beaucoup sur Internet. 40% des gens qui ont répondu à l'enquête y ont eu accès, et beaucoup sur le Darknet, hein, forcément. Enfin, les nouveaux produits de synthèse, hein, donc toujours ce qui s'appelle, ce qu'on peut trouver comme des legal height, donc des drogues légales. Voilà, les médias suggèrent que les NPS apparaissent comme moins dangereux parce qu'ils sont légaux, mais ce n'est pas le cas. Les gens prennent des drogues, ne sont généralement pas idiots. Ils veulent se préserver des ennuis de santé. Malheureusement, comme on sait peu de choses sur ces NPS, les gens sont mal informés. Voilà, donc il y a les poudres mystères, il y a différentes petites choses. Donc voilà, le gros problème de ces produits, c'est qu'on n'a aucun retour d'expérience, ou en tout cas très très peu. Voilà, et enfin, comment arrêter? Bon, beaucoup de gens qui veulent réduire un peu, mais pas tous, puisque la plupart ne sont pas en dépendance, mais utilisent uniquement pour le plaisir. Voilà, donc, et surtout, ils disent que les risques seraient beaucoup mieux connus si les messages officiels ne les enjoignaient pas à l'abstinence.
Ne les enjoignaient pas à l'abstinence.
Voilà, tout à fait.
Ok.
Voilà, pour reprendre très rapidement, hein, ce qui a été fait en la synthèse de 2015. Voilà. Cette année, je ne sais pas ce que ça donnera, faudra voir.
Ouais, on verra bien. Sinon, pour revenir à l'article initial de la brimade des stupes, donc là on avait fait un aparté à propos des résultats de l'étude 2015, c'est ça, hein?
Tout à fait.
Donc voilà, alors donc pour finir vite fait sur cet article, il y a une partie que moi j'aime bien, encore une fois, et je trouve que heureusement que Michel Henry est là pour rappeler un peu aux lecteurs tout ce qui se passe en France au niveau de la répression de l'usage de drogue. Donc là, il a pas oublié de reprendre l'étude de l'OFDT publiée en octobre dernier et dirigée par la chercheuse de l'OFDT Ivana Obradovic, qui nous disait clairement, en deux décennies, donc entre 90 et 2010, les interpellations d'usagers de drogue, alors on verra après, hein, c'est en fait d'usagers, et parmi ces usagers, 90% c'est pour du cannabis, donc en deux décennies, les interpellations d'usagers ont été multipliées par 7, et par 7 pour le cannabis. Hein. C'est bien ça qui est dit explicitement. Et donc, contrairement au discours officiel prétendant que la justice cherche surtout à faire tomber des réseaux, eh bien, les consommateurs sont en fait les plus visés. L'activité des, je cite, hein, je n'invente pas, l'activité des forces de l'ordre est centrée sur la lutte contre la demande, note la chercheuse de l'OFDT. Depuis 70, les interpellations d'usagers ont augmenté 3 fois plus vite que celles d'usagers revendeurs et de trafiquants. Et parmi les consommateurs, on cible surtout ceux du cannabis. En 85, ce produit représentait 40% des interpellations. Aujourd'hui, c'est 90%. Donc voilà, encore une fois, je le dis, je le répète, c'est à chaque fois qu'on parle de ça. C'est ce que dit le cirque depuis des années. Et en tout cas, ça ne vient que confirmer ce que dit le cirque depuis très longtemps. Donc la chercheuse explique pourquoi en fait il y a un intérêt à interpeller les consommateurs de cannabis, notamment depuis la mise en place de la politique du chiffre de Sarkozy. Pourquoi ? Parce que ces infractions étant élucidées dès qu'elles sont constatées, elles permettent de faire remonter le taux d'élucidation qui peut ainsi atteindre, voire même dépasser, les 100%. Eh oui, car lorsqu'on interpelle un usager, on constate parfois d'autres infractions. Voilà, participer à la Global Drug Survey sur internet. Vous pouvez également, je vous invite à vous rendre sur le site internet du Cirque Lyon ou de l'AFR, l'Association Française de Réduction des Risques, parce qu'il y a une campagne justement d'information et de collecte d'informations au sujet d'un lien entre politique des drogues et politique raciale. Puisque on n'arrête pas de le dire là aussi, la plupart des personnes qui sont concernées par la répression sont plutôt des jeunes issus des minorités ethniques, des jeunes issus de l'immigration, comme on dit pudiquement, bref, des Français. Voilà, donc, question qui est quand même posée dans cet article un peu plus loin, quel est donc l'effet de cette politique de répression l'étude de l'OFDT amène quelques réponses, parce que en 2013, 163 497 personnes ont été mises en cause pour usage de stupes, plus 17 702 pour usage revente. Cela représente moins de 4% des usagers de cannabis, dont le nombre en augmentation atteint 4,6 millions exactement dans l'article, en tout cas, de personnes en France, selon les estimations, mais certainement beaucoup plus dans la réalité. On peut peut-être même presque dire qu'on peut multiplier ce chiffre par 2, je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, facilement. Oui. Ouais, après, ça dépend quotidien, régulier.
Oui, voilà.
Ça dépend ce qu'on prend en compte.
Ouais. Mais bon, voilà, l'accroissement des interpellations n'a en fait pas d'impact sur la consommation, et c'est une donnée qui est vérifiée par de nombreuses études, pas que par l'OFDT. Et même si les hausses de ces interpellations s'accompagnent de plus de sanctions, faut quand même savoir que les classements sans suite sont de moins en moins fréquents. Le taux de réponse pénale est passé de 79 à 97% entre 2001 et 2013. On va pas dire merci Sarkozy ni merci Emmanuel Valls, mais en tout cas ils sont responsables, je pense, tour à tour de ces scores. Dans les condamnations pour affaires de stup, la part de l'usage a triplé entre 2002 et 2013, passant de 22 à 59%. En 2013, 33 645 personnes ont été condamnées pour usage, en majorité pour du cannabis, et en infraction unique, soit 6% des condamnations délictuelles prononcées sur une année. En 2014, 102 000 affaires d'usage ont occupé les tribunaux. Alors là, c'est pas dit, mais je le rajoute. Encore une fois, il faut vraiment savoir que c'est tellement important au niveau du contentieux que le contentieux sur les affaires de drogue, et j'irais presque pour le cannabis, parce que c'est 90% d'entre elles, ça occupe quasiment un tiers du contentieux juridique national dans les tribunaux. Donc c'est absolument énorme. C'est vraiment, il y a une répression de masse. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour cette éventuelle mise en place de la contraventionnalisation du premier usage ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Ça, on va le savoir à l'usage, justement. C'est sans doute pour la première interpellation, pour quelqu'un qui est primo-délinquant au cannabis, le juge pourra juste dire au policier de mettre une amende. Il fixera sans doute le montant de l'amende.
Voilà. Alors, il y a quand même un bémol, c'est que c'est un projet de loi plutôt. Qui a été amené par le Sénat, passé à droite. Alors là, dans l'article, Michel Henry nous parle de la plus grande pragmaticité.
La loi est passée le 15 octobre.
D'accord. Ah bah excuse-moi, j'ai
pas encore le décret d'application.
Mais ah oui, voilà, l'a mis le 15 octobre. Voilà, effectivement.
Voilà. Donc la gauche est un petit peu tétanisée
là-dessus. Alors non,
là-dessus,
je suis pas d'accord. En fait, le gouvernement le 15 octobre. Non, mais attends, il faut que la loi elle repasse à l'Assemblée nationale. C'est bien dit à la fin de l'article. Et puis bon, de toute façon, c'est comme ça que ça marche. Donc, il faut que la loi repasse à l'Assemblée nationale, en fait.
Oui, d'accord.
C'est pas gagné, quoi.
Oui, c'est pas gagné. C'est pas fini. C'est pas encore totalement passé.
De toute façon, on perd.
On en est dans les va-et-vient entre le Sénat et l'Assemblée.
On perd dans tous les cas, de toute façon. Mais en tout cas, voilà, dans l'article, là, Michel Henry nous parle de la plus grande. Du plus grand pragmatisme de la droite par rapport à la gauche, qui du coup au Sénat a mis en place cette disposition, mais pas sûr que Marisol Touraine y adhère, car elle avait déjà dit il y a quelques mois que non, il faut pas faire ça, ce serait un mauvais signal à adresser à la jeunesse. Là, c'est pas dit dans l'article, mais c'est comme ça. Ce serait un mauvais signal à adresser. Voilà, ils ont peur. La gauche a toujours peur de passer pour laxiste en ce qui concerne leur politique des drogues. Ils ont tellement peur de passer pour des laxistes qu'ils deviennent des fachos d'ailleurs, et ils sont en train de perdre leur électorat de gauche, mais ça c'est leur problème, ils ont qu'à faire un peu autrement, puis bon, c'est bien fait pour eux, qu'ils se ridiculisent, qu'ils continuent, ça fait de la peine, voilà. Mais enfin, en tout cas, dans cet article, c'est bien expliqué que finalement la gauche a été plus répressive sur les questions de drogue que la droite sous Sarkozy. On ne les applaudit pas.
Non.
Voilà. On retourne un peu en musique.
Ouais.
Allez. À tout de suite.
Dérange les cris d'enfants qui trouvent le temps inutile si on le passe en s'amusant. Ils ont vu sur mon jardin et ils ont l'écho du son des barbecues des copains si l'on sort l'accordéon. Aux fantômes des villes nouvelles et de tes quartiers sans âme, de tes centres commerciaux sans ciel, de tes faux plafonds infâmes. Les marmots ne seront plus le prétexte d'une ribambelle d'idées loufoques et corrompues. Et si tu pries gentiment, tu nous juges et c'est méchant. Toi qui nous avais appris pourtant à ne pas perdre de temps. Aux fantômes des idées gratte-ciel ou doux rêveurs dépassés, tu voyais la grande citadelle, le paradis dans les cités. Je ne jette pas la pierre, je constate le gâchis. De petites maisons pas centenaires, recouvertes de crépi. On fait du neuf avec du neuf, ni une ni deux, le neuf est vieux. De ta loi qui marchande et qui bluffe nos âmes d'imbéciles heureux. Fantôme des quartiers résidentiels, que n'as-tu pas profité? Tu vis la vie de moins en moins belle, quand tout te pendait. Que trop sévère. Tu es un fantôme au cœur qui bat bien plus vivant que tes frères, eux qui ont tout dévoré, tes premières idées, tes dernières, sans jamais avoir su estimer tout ce qui leur était offert. Aux fantômes des bourgs artificiels, ils ne t'ont jamais dit merci. Ils t'ont laissé te brûler les ailes, ils s'en mordront les doigts aussi. gros fantôme, des villes nouvelles. On se recroisera sûrement dans ma vie bientôt devenue belle, près de mon village des vents.
Et voilà, donc c'était les Ogres de Barbac, Terrain Vague. Alors, juste pour continuer et reprendre notre revue de presse, on va passer très vite sur les dépistages d'alcool et de drogue au volant désormais possibles au bord de la route.
Bah, ils étaient déjà possibles, hein, mais juste expliquer ce qui change un peu là.
Voilà, avant, les gendarmes et policiers pouvaient faire des dépistages d'alcoolémie ou de drogue. Il y avait des raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants. Et alors maintenant, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raison plausible de soupçonner un usage de stupéfiants, ils pourront quand même faire des contrôles d'alcoolémie ou de stupéfiants. Voilà, pour Marisol Touraine, il s'agit de renforcer les objectifs de prévention. Ça s'appelle plutôt de la répression, mais c'est pas grave. Voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter, voilà.
Ah bah, ce qu'on peut rajouter, je vais te le dire, faut le dire. Alors donc, en fait, maintenant, quelle que soit la raison, enfin même s'il n'y a pas de raison, finalement, on peut vous soumettre à faire un dépistage, un test salivaire comme ça, parce que vous êtes au volant, en fait, c'est la seule raison. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, il y a différents trucs, deux trucs essentiellement. D'abord, quand vous prenez le volant. Quand vous êtes au volant, abstenez-vous de consommer en conduisant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous êtes chopé à ce moment-là ou peu après avoir éteint votre pétard, il n'y a pas d'échappatoire en fait. Vous ne pouvez rien faire. Là, ils vous arrêtent, ils vont faire le dépistage de test salivaire. Vous êtes marron. Il n'y a rien à faire. Donc voilà, avant de prendre le volant, une demi-heure, une heure avant, de partir, il faut éteindre son pétard, il faut pas prendre la voiture dans l'idéal une heure ou une demi-heure avant quoi. Et il faut manger bien, boire un coup, bref, avoir l'ambiance de votre bouche et de votre palais qui a été modifié. Et là peut-être vous avez une chance de passer à travers le test salivaire quoi. Voilà. Donc c'est très important parce qu'en fait un test salivaire c'est quoi ? Ça va mesurer les substances cannabiques qu'il peut y avoir dans votre je dis ça un peu comme ça hein, dans votre bouche, donc ça va détecter du THC mais pas que, aussi du THC-COOH, c'est-à-dire la preuve de la dégradation du THC en fait dans votre salive, qui peut même démontrer une consommation plus ancienne. Plus que 6 ou 8 heures, voire même 4 jours ou 5 jours. Donc c'est important de veiller à son hygiène bucco-dentaire et de rincer, si possible, assez souvent sa bouche, en fait, ou de manger. Enfin bref, voilà, faut faire quelque chose, en fait, pas laisser votre bouche et votre palais, votre langue constamment imbibée par les vapeurs des cigarettes cannabiques que vous fumeriez, et notamment pas en prenant le volant. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, je vous invite à vous rendre également sur le site internet du Cirque Lyon. Il y a un flyer de présentation, un flyer d'information de la conduite automobile et l'usage de cannabis, avec les lois, pourquoi du comment on peut vous tester, on peut vous incriminer même si vous n'avez pas fumé depuis une semaine. Et un certain nombre de petites informations à propos de plantes que vous pouvez mélanger avec d'autres plantes et de l'eau et pour vous rincer la bouche. Voilà, c'est pas fiable à 100%, hein. Je suis pas en train de vous dire que vous allez passer à travers systématiquement si vous faites comme ça, mais en tout cas vous vous donnez des chances de le faire. Que à contrario, si vous faites pas ça et que vous fumez en conduisant ou peu après avoir pris le volant. Là, vous n'avez aucune chance d'échapper au contrôle routier et au test salivaire. Et dernière chose, pour terminer, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il fallait une prise de sang pour confirmer que vous avez fumé du cannabis, parce que c'était la prise de sang qui faisait foi devant les tribunaux. Depuis peu, la loi a été changée. Un test salivaire est nécessaire pour confirmer un premier test salivaire. Donc maintenant, plus besoin de prise de sang, donc plus besoin d'équipe médicale. Les policiers n'ont qu'à avoir suffisamment de tests salivaires sur eux et un deuxième test salivaire pour confirmer le premier est suffisant pour vous poursuivre si c'est positif, bien évidemment. Voilà.
Voilà, deuxième,
n'ayez pas peur.
Deuxième sujet un peu grave, c'est le cas de Serge Atlaoui, qui est dans le
couloir de la mort indonésien.
Ouais, depuis une dizaine d'années maintenant.
Depuis 2005, je crois.
Voilà, si je me trompe pas, c'est celui qui...
qui était parti pour faire de la soudure dans une usine d'acrylique.
Voilà, c'est ça.
Qui s'était avéré être une usine de fabrication d'amphétamine.
Voilà, et donc il a été condamné à mort pour ça, alors qu'il était que la petite main qui faisait fonctionner la machine.
Ouais, la soudure de tuyaux, je pense qu'il faisait fonctionner, mais... Enfin, visiblement, lui, il n'était pas au courant.
Voilà, donc en tout cas, c'est sa femme qui essaye de le sortir de là, qui va dans les collèges pour expliquer que la peine de mort et tout ça. Juste une pensée pour lui, parce que voilà, ce qui lui arrive est quand même très, 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 très difficile.
Cet article qu'on a mis dans la revue de presse aujourd'hui, c'était pour rappeler que Serge est toujours dans le couloir de la mort. Qu'il a failli être exécuté l'année dernière au mois de mai ou au mois de juin, qu'il n'est toujours pas exécuté, donc il est toujours en vie, et qu'il a besoin du soutien de tout le monde. Et en tout cas, sa femme continue à militer dans cette école, elle milite pour l'abolition de la peine de mort, en fait. Hein. Il y aura un congrès mondial à Oslo, en Norvège, au mois de juin prochain, en 2016. Et voilà. C'est tout.
Voici donc un article maintenant un petit peu plus de fond sur les dealers aux pharmaciens. Pourquoi l'Uruguay légalise le cannabis en février 2014.
Donc, un article du Monde Diplomatique, ouais. Très intéressant.
Et
assez fouillé.
Voilà, donc...
Et je crois qu'on n'aura pas le temps d'en parler tout.
Je vais essayer de le faire très très vite.
Vas-y.
Il y avait tellement de choses qui étaient bien, que j'ai soulignées, qui étaient intéressantes.
Vas-y,
donc, ils partent du Mexique en expliquant que, quand on regarde ce qui se passe au Mexique, c'est une guerre contre la drogue, c'est surtout un bain de sang qui s'alimente de deux sources croisées. D'une part, d'un côté, les États-Unis qui charrient de l'argent et des armes, et de l'autre côté, du côté des trafiquants, les cartels qui se disputent le contrôle des circuits de livraison. Donc, comme le dit l'écrivain Charles Boden, il a une bonne expression, la guerre contre la drogue se conjugue à la guerre pour la drogue. Voilà, les deux sont pareillement mortels. Pas mal de gens se dirigent contre ça. De plus en plus de dirigeants d'Amérique latine ou d'anciens présidents d'Amérique latine essayent d'aller contre ça. Mais en tout cas, il y en a un qui a décidé de prendre cette voie, c'est l'Uruguay avec son président José Mujica.
Qui n'est plus président de l'Uruguay à l'heure actuelle.
Voilà, donc eux, ils ont donc légalisé 40 grammes par mois, ou on peut même le cultiver soi-même à raison de 6 plants par foyer. Donc Mujica explique que cela fait plus de 100 ans que d'une façon ou d'une autre, on mène des politiques répressives sur la question des drogues. Et après 100 ans, ils ont conclu, quoi, en tout cas les autorités uruguayennes ont conclu qu'elles se sont soldées par un incontestable échec. Nous sommes totalement d'accord avec lui. Et donc, ils ont décidé de passer le pas. Ils disent, si on ne le fait pas maintenant, ce qui est arrivé au Mexique finira par se produire chez nous. Et on sera dans de sales draps, puisque l'Uruguay est aussi une des routes continentales de la drogue empruntée par la cocaïne bolivienne. En tout cas... Il y en a d'autres qui toujours des Uruguayens qui disent c'est la politique, donc Monsieur Windobro par exemple qui dit là c'est la politique prohibitionniste qui a créé le narcotrafic et la violence qui en découle. En refusant de légaliser la marijuana, je le cite, on ne fait que remettre les bénéfices de ce marché entre les mains des criminels et transformer les trafiquants en une institution surpuissante.
Oui, même plus puissante que certains États.
Voilà, il rappelle ce qui s'est passé lors de la prohibition de l'alcool aux États-Unis avec Al Capone et tout ça.
C'était plus une dépénalisation qu'une prohibition, hein. Ouais, il faut quand même le dire, parce que n'était pas poursuivi celui qui buvait de l'alcool. était poursuivi celui qui en produisait. Voilà. Mais bon. C'est pour ça que je dis ça parce que il y en a certains qui disent oui, il faut dépénaliser dans un premier temps peut-être, mais
il faut légaliser.
Il faut un truc clair, quoi.
Voilà, la guerre des États-Unis contre la drogue fait plus de dégâts que la marijuana elle-même, estime donc Monsieur Huidobro. Elle cause infiniment plus de victimes, provoque infiniment plus d'instabilité. Elle pose à la planète un problème bien plus grave que n'importe quelle drogue. Le remède est pire que le mal. Voilà, il faut sortir de l'absurdité du slogan de l'ONU, un monde sans drogue, c'est possible. D'ailleurs, le secrétaire général à la présidence, M. Diego Canepa, donc toujours de la présidence uruguayenne, hein, fait valoir que l'altération chimique de la conscience répond à un désir consubstantiel à l'espèce humaine qui s'est manifesté dans toutes les sociétés connues. Voilà. Et que chaque fois qu'on met un petit peu plus de répression d'un côté, c'est l'effet ballon. Donc le trafic se déplace un petit peu. Donc ça se déplace d'une ville en France ou d'un quartier à l'autre. Et en Amérique du Sud, s'il y a vraiment une grosse répression sur un pays, les trafiquants utilisent une autre route. On ne fait que repousser le problème, pas le supprimer. Donc c'est pour ça que M. Murica, en partant de tous ces constats, il a conclu que puisque le marché existe déjà, il faut le réguler, le sortir de l'ombre pour en priver les trafiquants. On continue, je vais très vite, on va un peu plus loin. Les adeptes sud-américains de la légalisation n'entendent nullement promouvoir les bienfaits du cannabis, ni l'encourager sa consommation. Même le président Murica n'a pas hésité de qualifier les usagers de drogue douce de nabos, un terme injurieux signifiant littéralement navet. Ils ont estimé qu'un joint n'était pas plus nocif qu'un verre d'alcool et qu'il fallait donc s'en accommoder. Donc c'est un petit peu là-dessus, ça rend pas plus intelligent, mais en tout cas ça rend pas dangereux, donc autant faire en sorte que les gens ne soient pas attaqués et coupables pour quelque chose de pas trop dangereux.
Puis ça rend pas spécialement violent non plus, contrairement à l'alcool, hein, parce qu'il y a quand même des études sérieuses qui montrent que un des éléments qui va dans les violences conjugales et tout, c'est l'alcool et pas le cannabis quand même.
Voilà, donc après évidemment il y a les gens qui disent que si on légalise, ça va être le chaos et la débauche, et les enfants vont s'en ruer chez les marchands de sucettes pour faire le plein de psychotropes. Donc là, les Uruguayens disent c'est un petit peu n'importe quoi. La réforme vise l'exact opposé, reprendre le contrôle du marché pour pouvoir le maîtriser. Et selon eux, les adolescents en seront les principaux bénéficiaires, puisqu'il serait beaucoup plus difficile pour les mineurs d'atteindre le cannabis, puisque quand même chez les mineurs, le cannabis peut altérer les facultés mentales. Je dirais aussi que l'alcool, tout autant chez les mineurs, peut altérer les facultés mentales. Hein, donc, plus on est jeune, moins il faut utiliser de produits psychoactifs, qu'ils soient légaux ou illégaux. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Aux États-Unis, Colorado, Washington ont aussi légalisé. Monsieur Murica est quand même assez culotté, parce que 60% des Uruguayens sont défavorables à cette légalisation. Voilà,
c'est pas
donc
populaire.
Est-ce que les gens vont commencer davantage, comme beaucoup comme l'affirment certains députés de l'opposition uruguayenne? A priori, ça paraîtrait peut-être normal, mais en fait non. Au contraire, quand on regarde dans les pays comme le Pays-Bas, où la vente de cannabis dans les coffee shops est autorisée, c'est dans un des pays qui consomme le moins au monde. Donc,
et toutes les drogues, justement.
Le spectre d'une ruée vers la consommation, si on légalise, semble relever du fantasme. La deuxième crainte, c'est que la légalisation du cannabis incite les usagers à se reporter sur des drogues dures. C'est la théorie dite de la porte ouverte. Un petit vice conduit nécessairement à un vice plus grave.
Ou l'escalade.
Voilà, c'est un tout petit peu mieux formulé que l'escalade. Mais
Il y a de ça.
Mais voilà, c'est pas vrai. On le sait très bien. Alors après, c'est la porte ouverte. Les gens commencent en général à boire, à fumer des cigarettes avant de passer au cannabis ou avant de passer à d'autres produits, mais pas nécessairement. C'est ce que fait la gaussienne, la majorité des gens. Mais ce n'est pas vrai dans tous les cas, et en tout cas ce n'est pas un passage, c'est pas parce qu'on a pris un produit qu'on va prendre un autre. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent dès l'alcool et qui ne prennent jamais de cigarettes, il y en a qui prennent pas d'alcool et qui prennent des cigarettes, et tous ne passent pas à la marijuana, etc., etc., etc. Voilà. Donc, n'empêche que quand ils réfléchissent dans la fin de l'article, ils disent qu'il faut quand même réfléchir sur les autres produits, puisque pour ébranler vraiment le pouvoir des cartels, la cohérence imposerait d'aller plus loin et de réguler le circuit de toutes les drogues pour lesquelles il existe une forte demande. Pour certaines, comme l'ecstasy ou la cocaïne, cela supposerait d'encadrer la vente. Pour d'autres, comme l'héroïne, une distribution sur prescription médicale serait sans doute plus avisée, comme le suggèrent des expériences pilotes menées en Suisse. Voilà. En tout cas, Monsieur Huy Dobro, qu'on a déjà cité tout à l'heure, appelle qu'il faut trouver vraiment une autre voie, parce qu'il faut arrêter de s'acharner à poursuivre une guerre déjà perdue. Voilà un peu comment je pourrais dire, prendre ce texte rapidement.
Très bien, c'est super bien. Alors du coup, je vous rappelle quand même, donc cet article s'appelle « Des dealers aux pharmaciens, pourquoi l'Uruguay légalise le cannabis ?» C'est un article du Monde Diplomatique de février 2014. Voilà, si ça vous intéresse, vous voulez lire l'article, qui est quand même assez long et qui est bien écrit, je vous invite à vous rendre sur Internet, vous tapez www.monde-diplomatique.fr ou alors tout simplement vous tapez « Des dealers aux pharmaciens, Monde Diplomatique, février 2014 ». Voilà, vous trouverez l'article, il est accessible. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas, vu que ce sont des journaux au départ qui ne sont pas des journaux... au départ, c'est plutôt des journaux papier ou des publications papier. Depuis quelques années, maintenant, il y a des versions numériques. Mais des fois, il faut être abonné. Enfin bon, en tout cas, là, cet article, maintenant, est un peu accessible. Et il est très intéressant. Je vous le recommande. Et il nous reste 5 minutes.
5 minutes, on va parler quand même de ce qui se passe en Suisse.
Hein,
à l'université de Neuchâtel.
Très intéressant.
C'est ces jours-ci. C'est un débat sur faut-il légaliser les drogues. La question s'immisce dans les sphères académiques. Donc il y aura une conférence à l'université de Neuchâtel, suivie d'un colloque avec en tête d'affiche Ruth Dreyfus, l'ancienne présidente de la Confédération et membre de la Global Commission on Drug Policy, qui milite pour la fin de la prohibition des drogues. En ligne de mire quand même de cette conférence, c'est avril 2016, où il va y avoir une session spéciale de l'Organisation sur l'Organisation des Nations Unies sur la drogue. Donc voilà, peut-être qu'on va sortir de la guerre à la drogue, peut-être qu'on va sortir de cette politique absurde. Sinon, qui sait qu'on aura d'autres... on aura Julie
de Dardel.
Dardel, une post-doctorante à l'université de Neuchâtel, qui elle est convaincue avec le constat général de l'échec des politiques de prohibition. Nous sommes à l'aube d'un changement global des approches en matière de drogue. Il y a 10 ans, légaliser les stupéfiants était une idée marginale. Aujourd'hui, c'est une posture relayée par des cercles influents. Plus personne ne pense qu'un monde sans drogue est possible.
Sauf en France. Sauf en France, à Paris, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Voilà, et dans la plupart des partis politiques, à l'exception des Verts, et encore, parce que bon, maintenant, vu ce que c'est que les Verts.
Voilà, donc a priori, on voit que les milieux scientifiques donc, sont de plus en plus engagés pour appuyer des réformes des politiques publiques et relayer le débat dans la société civile, en tout cas en Suisse.
En France aussi, il y a le monde scientifique, l'universitaire, il n'y a pas de souci. Hein.
Voilà, et puis après, ben, ils vont aussi parler de ce qui se passe ben, en Uruguay, comme on vient d'en parler, dans l'état de Washington, dans l'état de Colorado, le dernier c'est le Nevada, si je me trompe pas. Bref, en tout cas, tous ces états ont autorisé la consommation récréative d'herbe. Il est encore un peu trop tôt pour faire un bilan de ces politiques. Mais en tout cas, le Portugal, qui a décriminalisé l'usage de toutes les drogues il y a une dizaine d'années, obtient des résultats très très positifs.
Et ils sont prêts à continuer.
Et on assiste donc à un basculement d'une politique prohibitive à une approche qui considère la drogue comme un problème de santé publique. Voilà, donc on estime, et en plus après, l'autre élément quand même qui est important pour les pouvoirs publics dans ces époques de vaches maigres, c'est quand même les 2 milliards de francs suisses, juste pour la Suisse. Donc pour la France, je pense qu'on serait à plutôt plusieurs milliards d'euros.
Oui.
Ce qui ne serait pas négligeable dans les caisses de l'État, et ce serait toujours mieux que dans les caisses des trafiquants.
Mais l'argent, c'est mal. On dirait qu'en France, l'argent, c'est mal. Et même quand il faut faire appliquer des taxes pour prélever de l'argent et tout, en tout cas pour les drogues, non, pas possible.
Voilà, et on arrive même aussi à ce que dit le chef de la police judiciaire neuchâteloise, Olivier Guéniaud, qui participera aussi à la conférence de Neuchâtel, qui dit « Nous vivons dans un système paradoxal avec une interdiction qui n'est pas effective puisqu'elle est censée être transgressée et qui ne permet pas de protéger les jeunes. 40% des 25-29 ans ont déjà consommé de la drogue. » Donc voilà, en tout cas, le débat est bien posé en Suisse et avance.
Oui, alors il nous reste une minute. Alors juste après, il y a un autre article dans la Tribune de Genève de la chercheuse dont tu parlais, la Julie de Dardel, qui répond à des questions, pardon, de la journaliste de la Tribune de Genève. Je vous pouvez lire l'interview, hein, on en a déjà dit beaucoup. Mais
surtout qu'on reviendra surtout sur ce thème, article, puisque c'est pour avril 2016, hein, par rapport à ce qui va se passer à l'ONU.
Voilà, c'était ça que je voulais dire en fait. Ça s'appelle l'UNGAS, UNGA2S. Donc voilà, l'ONU se réunira donc en avril 2016 à New York pour une session spéciale consacrée aux politiques des drogues ou anti-drogues. Bref, en tout cas, ils vont parler de ça. Il y a quelqu'un du cirque qui va aller à New York participer à la conférence. Donc on aura un envoyé spécial, normalement, hein, c'est prévu en tout cas, on aura un envoyé spécial à New York pour la session spéciale de l'ONU. C'est peut-être là que les choses ont vraiment commencé à changer.
Voilà, parce que c'est quand même parti de pas mal de présidents, ou d'anciens présidents surtout, d'Amérique du Sud. Il y a aussi Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, qui est là-dessus.
Et voilà, il y a Vicente Fox, l'ancien président mexicain, mais il y a aussi Richard Branson de Virgin. Il y a aussi des intellectuels sud-américains. Il n'y a pas que des anciens présidents, mais il y en a beaucoup, effectivement. T'as bien raison de le dire. Et voilà, en tout cas, c'est peut-être là que les choses vont commencer à changer. Mais, vous savez, je le dis souvent, moi je suis quand même quelqu'un d'assez pessimiste. Il ne faut pas non plus s'enflammer trop vite. Peut-être que ça ne sera pas pour cette fois. Ce n'est pas pour cette raison qu'il faudra s'arrêter là. Peut-être que ça sera pour une prochaine session spéciale. Mais en tout cas, c'est bien parti. On est plutôt sur la bonne voie vu ce qui se passe aux États-Unis. Puis on n'a pas parlé du Canada.
Mais ouais, Justin Trudeau,
avec Justin Trudeau qui est nouveau Premier ministre et qui visiblement a l'intention de vraiment d'accélérer les choses. Voilà, c'est la fin de Cannabis Circus en ce lundi 30 novembre 2015. Et toutes les semaines après Cannabis Circus, Chasseur de son est là, fidèle au poste, et attend avec impatience de vous faire découvrir de nouvelles sonorités.
Parce que comme tous les lundis soirs, on lui vole une ou deux minutes.
Voilà, Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cannabis Circus avec le Cirque Lyon. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Merci de votre fidélité, au revoir.
Ciao.